vous invite à prendre vos Bibles dans l'épître aux Philippiens, chapitre 2, et on commencera au verset 1, page 771 sur les Bibles blanches de l'Église. Je lirai le texte que vous avez déjà entendu la semaine dernière pour remettre un peu le contexte, et je prêcherai à partir du verset 12. Donc, épître de l'apôtre Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 1, page 771. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc là maintenant, le texte sur lequel sera la prédication de ce matin. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux, en portant la parole de vie. Je pourrais alors être fier, le jour de Christ, de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être moi-même encouragé par les nouvelles que j'aurai de vous. Car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre vraiment votre situation à cœur. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts, et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez que Timothée a fait ses preuves en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que je serai au clair sur ma situation, et j'ai confiance dans le Seigneur que moi aussi je viendrai bientôt. J'ai cependant estimé nécessaire de vous renvoyer mon frère Épaphrodite, mon collaborateur et mon compagnon de combat, que vous aviez envoyé afin de pourvoir à mes besoins. Il désirait vous revoir tous et se tourmentait parce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'aie pas tristesse sur tristesse. Je m'empresse donc de le renvoyer pour que vous puissiez vous réjouir de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Accueillez-le dans le Seigneur avec une joie sans réserve, et ayez de l'estime pour de tels hommes. En effet, c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort. Il a risqué sa vie afin de vous remplacer dans le service que vous ne pouviez pas me rendre. On va s'arrêter là. Est-ce que vous vous rappelez quel est le dernier compliment qu'on vous a fait ? Est-ce que vous vous rappelez peut-être le dernier compliment que vous avez fait à quelqu'un? Je vous laisse réfléchir 3 secondes. C'est vrai que bon, quand on nous fait un compliment, on réagit tous de manière différente. Certains sont gênés, d'autres ressentent au contraire un très grand sentiment de fierté. Alors, si vous êtes croyant, comment est-ce que vous réagiriez si on vous disait en te voyant vivre, en t'entendant parler, j'ai l'impression de mieux comprendre qui est Jésus. Ce serait la classe, non ? Si vous n'êtes pas croyant, sachez que ça, c'est un peu le rêve de tout chrétien. Et avoir ce désir, c'est en tout cas ce que Paul recommande dans le texte que nous allons étudier ce matin. Mieux ressembler à Jésus. Alors, au cas où vous n'étiez pas là les semaines précédentes, ce texte est tiré d'une lettre, d'une épître, écrite par l'apôtre Paul, il y a un peu moins de 2 millénaires. Il écrivait à une communauté de chrétiens philippiens, c'est-à-dire originaire de la ville de Philippe, en Macédoine, dans le nord de la Grèce. Et son but, c'était d'encourager cette église qui vivait des temps difficiles, alors que lui-même était en détention préventive, en prison, pour sa foi. Il était lui-même persécuté. Alors après avoir fait une description magnifique de Jésus, qu'on a lu dans le début du chapitre 2, notre texte, c'est un peu une partie application. Des applications concrètes, avec également des exemples à imiter. L'exemple de Paul, de Timothée, d'Épaphrodite. C'est vrai que Jésus est un modèle parfait, c'est le modèle ultime, mais il nous est utile de voir comment des personnes qui, comme nous, sont ou étaient imparfaites, comment ces personnes essayent de vivre en s'inspirant de Jésus. Après avoir été acceptés par Dieu, après avoir été pardonnés, après s'être convertis à Jésus, comment vivre une vie de disciple ? Et nous allons voir que vivre le salut, c'est briller dans la nuit, aimer dans l'humilité et servir jusqu'au bout. Vivre le salut, versets 12 et 13. Alors dans le texte de la semaine dernière, donc le début du chapitre 2, vous avez vu que Jésus a enduré une mort atroce, mais que Dieu l'a relevé et l'a glorieusement justifié. Et verset 12, ça démarre par « Ainsi ». Ainsi, à notre tour, nous devons voir plus loin et mettre en œuvre notre salut avec crainte et profond respect. Fin du verset 12. Mettre en œuvre notre salut. Expression un peu mystérieuse, qu'est-ce que ça veut dire ? Si nous acceptons Jésus dans notre vie, la Bible nous garantit que nous sommes sauvés. C'est une des magnifiques promesses bibliques. Mais ce salut n'est pas statique, il n'est pas immobile. Par exemple, je ne peux pas dire « je suis sauvé » et ne plus parler à Dieu, ne plus prier. Ou alors « je suis sauvé » et ne plus jamais m'intéresser à tout ce qui touche à la foi chrétienne, ne plus jamais ouvrir la Bible. Non, le salut, il faut le mettre en œuvre, le mettre en action. Sinon, c'est peut-être qu'on est en train de vivre dans l'illusion. On s'imagine être sauvé, mais peut-être qu'on ne l'est pas. Parce que la Bible est très claire. Le salut, ça a un impact sur notre vie quotidienne, chaque jour. Alors, le salut, c'est pas un changement instantané. Ça met toute notre vie pour se réaliser, mais il doit y avoir une évolution et un désir de se rapprocher de Dieu. Le salut, il faut le mettre en œuvre. Quand on finit un cycle d'études, en France, on obtient en général un diplôme. Alors, il y a quelques décennies, avec le bac, vous étiez sûr de trouver du travail. Et avec un diplôme de l'école polytechnique, vous étiez assuré de devenir cadre dans une entreprise ou dans une administration. Mais de nos jours, c'est plus ou moins fini tout ça. Le bac ne garantit plus grand-chose et certains diplômés de l'X ne trouvent pas de travail. Un diplôme, c'est très bien. Ça aide à démarrer dans de bonnes conditions. Mais après, tout va dépendre de ce que l'on fait de ce diplôme. Pour réussir, il faut mettre en œuvre, mettre en action, mettre en œuvre son diplôme. Alors bon, le diplôme, pour l'obtenir, il faut travailler. Alors que le salut, c'est un cadeau de Dieu pour toute personne qui croit. Un cadeau, un don, mais un don que l'on peut faire fructifier. On ne travaille pas pour obtenir le salut, mais on agit parce que on a obtenu le salut, pour porter du fruit. Comme si vous recevez un héritage auquel vous ne vous attendiez pas. En général, si on reçoit une forte somme d'argent dont on n'a pas besoin tout de suite, on fait en sorte de bien la placer pour qu'elle puisse se faire des petits, comme on dit. Et faire fructifier son salut, mettre en œuvre le salut, Ça signifie en particulier mener une vie digne de l'Évangile, vivre dans la crainte de Dieu, avoir un profond respect, parce qu'il s'agit de mettre en œuvre notre salut avec crainte et profond respect. Vivre en ayant en tête notre merveilleux Sauveur Jésus. Vivre son pardon et son humilité au quotidien, dans notre relation avec lui et dans notre relation avec les autres. Être humble et respectueux de chacun. Alors bon, je ne sais pas pour vous, mais tout ça, ça met un peu la pression quand même. Mais ce qui est génial, c'est que verset 13, nous ne sommes pas seuls pour vivre cela. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son projet bienveillant. C'est Dieu qui agit. C'est lui qui produit le vouloir et le faire. Et c'est tellement réconfortant. Mais attention, l'idée de mettre en action notre salut, ce n'est pas de faire des choses. L'objectif, ce n'est pas de tomber dans un activisme frénétique. Ce n'est pas de se laisser surcharger par ses supérieurs hiérarchiques et de se retrouver à 90 heures de travail par semaine sans compensation. L'objectif, ce n'est pas non plus d'être responsable de toutes les activités dans l'Église ou d'arriver ici à 6 heures du matin tous les dimanches pour se préparer spirituellement à la célébration. Non. Parce que ce qui est important, ce n'est pas tant ce que nous pouvons faire pour Christ, mais ce que Christ a déjà fait et fait encore en nous. Et pour nous. Nous, on n'est que des êtres humains relativement faibles et limités. Nous ne pouvons pas, ou très difficilement en tout cas, changer grand-chose en nous-mêmes par nos propres forces. Mais Dieu, lui, peut faire de grandes choses par la grâce de Jésus qui agit en chaque chrétien. C'est lui qui transforme nos cœurs de pierre en cœurs de chair, comme le disait le prophète Jérémie dans l'Ancien Testament. C'est lui qui nous rend capables de nous approcher de Dieu. Et ça, c'est une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Dieu nous rend capables de s'approcher de lui. Et comme nous le montre notre texte, ça veut dire que nous ne devons surtout pas nous relâcher. Attendre que Dieu agisse en nous pour commencer à faire des choses. Oui, parce que si on dit que c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire, et que moi, en ce moment, j'ai envie de rien faire. C'est peut-être parce qu'il faut que j'attende que Dieu me donne envie de vouloir. Est-ce que c'est ça? Non, pas vraiment. Alors, c'est vrai que Dieu agit de manière différente avec des personnes différentes, et il y a des moments dans la vie où les choses sont un petit peu plus compliquées. Mais le modèle de vie pour les chrétiens dans la Bible, c'est pas d'être des robots avec un cerveau déconnecté et de juste attendre qu'on appuie sur le bouton « on ». Le fait que Dieu produise le vouloir et le faire, ce n'est pas pour nous une excuse pour les moments où on a envie de tout envoyer promener. Au contraire, savoir que Dieu agit en nous, c'est une motivation puissante pour avancer. C'est une motivation puissante pour faire des projets. C'est une motivation puissante pour avoir de saines ambitions pour notre vie. Mais ce n'est pas le genre de motivation qui nous met la pression. L'action de Dieu en nous, le fait de savoir qu'il agit en nous, c'est rassurant. Parce que quand nous agissons pour Dieu, c'est Dieu qui agit par nous, conformément à son projet bienveillant, à son projet plein d'amour. Et si on comprend bien cette idée, si on l'applique dans notre vie, c'est vraiment déstressant. Et c'est vrai que c'est génial de se dire que nous participons au projet bienveillant du Créateur de l'univers. Dieu agit en nous et par nous. Donc par sa grâce, tout ce que nous faisons a de l'importance. Vivre le salut. Et vivre ce salut, c'est entre autres briller dans la nuit. Versets 14 à 18. Imaginez l'état d'esprit dans lequel Paul aurait pu être. Lui, le grand voyageur. Lui qui avait rencontré des centaines et des centaines de personnes d'origine très diverses. Lui qui avait fondé plusieurs églises dans l'est de la Méditerranée et qui aimait tant leur rendre visite. Lui dont l'une des plus grandes joies, c'était de partager avec d'autres sur Jésus. Lui qui avait reçu une mission spéciale de Jésus pour parler de lui aux nations. Il se retrouve coincé entre les quatre murs d'une prison. Il aurait dû être déprimé, dégoûté d'être enfermé. Alors c'était peut-être le cas parfois, mais il l'écrivait. Cette réalité, en tout cas, il n'en parle pas trop dans ses lettres. Et au contraire, verset 14, faites tout sans murmure ni contestation. Ou dans d'autres traductions, faites tout sans vous plaindre. Ça, c'est une allusion au fait que dans le livre de l'Exode, donc au tout début de l'Ancien Testament, le peuple de Dieu se plaignait souvent. Et on a eu une allusion de ça dans le psaume 95 qu'on a lu tout à l'heure. Le peuple de Dieu se révoltait souvent contre Dieu, se plaignait souvent des circonstances dans lesquelles il était. Et le peuple de Jésus ne doit pas agir comme cela, ou en tous les cas devrait tendre à ne pas agir comme cela, nous dit Paul ici. Dieu s'intéresse pas simplement à ce que nous faisons, mais également à comment nous le faisons, à nos attitudes. Et il voudrait que nous soyons reconnaissants. Alors bon, on est en France. Parfois, nous avons une certaine petite tendance à être râleurs. Nous n'aimons peut-être pas faire ce que nous faisons. Et nous avons de la chance, parce que le Dieu de la Bible est un Dieu de grâce. Venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est Jésus qui disait cela dans les évangiles. Nous pouvons lui parler de ce qui nous pèse, comme le faisaient les auteurs des psaumes. Et c'est un tel réconfort d'avoir cette ressource, de pouvoir confier à Dieu toutes les choses douloureuses que nous pouvons vivre, et d'avoir également l'oreille attentive des frères et sœurs de l'Église, le cas échéant. Et l'objectif que l'on voit dans le verset 15, c'est le témoignage dans la société dans laquelle nous nous trouvons. Parce que si ce que les non-croyants connaissent de l'Église, ça se limite aux disputes entre les membres, à leurs plaintes et à leurs ragots, ils risquent peut-être d'en tirer de mauvaises conclusions sur Jésus et sur l'Évangile. Et en plus, c'est vrai que bon, si dans une équipe, il y a une personne qui passe son temps à se plaindre et à contester, c'est le moral de toute l'équipe qui en est affecté. Donc soyons attentifs aux conséquences que nos actions ou nos attitudes peuvent avoir sur les autres, à l'extérieur de l'Église et à l'intérieur de l'Église. Parce que ce que le Seigneur veut que les autres voient en nous, c'est la parole de vie. Verset 16. La foi en Jésus, c'est une conviction d'espérance, pas une source de morosité et d'affliction. Les chrétiens sont porteurs d'une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Le disciple de Jésus constate les difficultés de la vie. Il ne cherche pas à les oublier et à les ignorer. Il ne fait pas comme si ça n'existait pas. À la fin du verset 27, par exemple, Paul parle de sa tristesse. Mais le disciple regarde à Jésus et il espère dans le Seigneur. Si ce n'est pas comme cela que nous réagissons, quand des choses difficiles nous arrivent, nous pouvons nous replonger encore et toujours dans le message de l'Évangile, dans la bonne nouvelle du salut et du pardon. L'idée, verset 15, c'est d'être des flambeaux. Un flambeau, on se dit, voilà, l'objectif c'est de briller. Mais c'est vrai que le flambeau en lui-même, il ne brille pas. C'est parce qu'il a été allumé par quelqu'un qu'il brille. Et c'est parce que Dieu agit en nous que la vérité peut briller en ceux qui croient en Jésus. Pour que nous puissions briller dans la nuit, dans un monde qui ne connaît pas la lumière de Jésus. Alors bon, si vous êtes perdu dans la nature et qu'il fait une nuit totale, sans lune, si vous voyez une flamme au loin, il y a de fortes chances que vous alliez dans cette direction. Après, ça dépend du pays peut-être et des circonstances, mais en général, si on est perdu dans le noir, on va vers la lumière. Et donc, prions que notre vie puisse attirer des gens à Jésus si nous sommes croyants. Et que rien ne vienne obscurcir notre témoignage. Que nous puissions être irréprochables et purs pour le jour du retour de Jésus, comme on y était invité dans le chapitre 1, entre autres. Cela en vaut la peine. Annoncer Jésus, c'est une joie profonde, surnaturelle. Verset 18, « Vous aussi, soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi. » Même s'il faut y laisser la vie, on voit dans le verset 17, il parle « Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je me réjouis avec vous tous. » C'est dur comme affirmation. Prenons l'exemple d'un jeune homme ou d'une jeune femme qui fait des études de médecine. Et après la médecine, encore quelques années pour se former théologiquement, pour partir en mission. Et après avoir réussi brillamment toutes ses études, c'est le départ pour, on va dire, l'Irak. Et au bout de 3 mois, cette personne meurt dans un attentat. Et là, on va se dire, quel gaspillage quel gâchis, toutes ces années investies. Mais l'apôtre Paul dirait « Non, pour construire son peuple, Dieu est prêt à dépenser beaucoup. » Vivre le salut, c'est briller dans la nuit et aimer dans l'humilité. Versets 19 à 24. Alors dans les versets 4 à 5, qu'on a relus tout à l'heure, et que vous avez vu dimanche dernier, vous avez entendu cette exhortation. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ça, c'est ce que Paul invitait à mettre en pratique ici. Aimer en action, aimer dans l'humilité. Et il souhaitait envoyer Timothée pour prendre des nouvelles de l'église de Philippe, l'église à laquelle il écrivait. Il estimait que c'était important, que le jeu en valait la chandelle, il fallait qu'il l'envoie. Mais c'est vrai que se séparer ainsi de son principal soutien pendant plusieurs mois, alors que lui-même se trouvait dans une situation très inconfortable, c'était un bel acte d'amour. Parce que Timothée, c'était pas juste un gars qui était comme ça de temps en temps à côté de lui, c'était son apprenti. Parmi les 66 collaborateurs de Paul que l'on trouve dans le Nouveau Testament, Timothée occupait une place toute particulière. Il avait montré sa valeur et sa fidélité pendant plus de 10 ans, partout où il avait servi. Paul l'avait formé comme un père formait son fils à son métier. Alors, ils n'avaient aucun lien de parenté, mais c'est vrai qu'à l'époque, les pères formaient leur fils pour reprendre leur métier, et donc pour pouvoir ensuite reprendre l'affaire familiale. Et donc Paul utilise cette image. Fin du verset 21, il a fait ses preuves en se consacrant au service de l'évangile avec moi comme un enfant avec son père. Et donc Paul a formé Timothée vraiment à fond pour le service de l'évangile. Et là, il veut l'envoyer. Imaginez que vous êtes sur un lit d'hôpital pendant des mois et des mois. Et il y a une personne qui vous rend visite tous les jours, qui vous aide, avec laquelle vous êtes d'accord sur tout, qui partage toutes vos préoccupations. Et cette personne, eh bien, vous vous en séparez volontairement pendant quelques mois, juste pour prendre des nouvelles d'un groupe d'amis qui habite super loin. Ce serait vraiment dur. Autre exemple, vous êtes dans une église et il y a une personne très fidèle qui est une des chevilles ouvrières de l'église, à tel point qu'il est considéré par tout le monde comme faisant partie des murs. Personne n'imaginerait l'église sans cette personne. Mais depuis longtemps, cette personne avait envie d'aller vivre à l'autre bout de la France, dans un endroit où il y avait très peu d'églises. Et l'église décide de le soutenir dans ce projet et de l'envoyer pour aller encourager des chrétiens au loin. Jésus aime son église et il s'intéresse à elle. Et il suscite des personnes qui s'intéressent aussi à son église. Et Timothée en faisait partie. Prendre la situation des autres à cœur, verset 20. Avoir une vision globale de l'œuvre de Jésus. Pour nous aujourd'hui, ça pourrait signifier s'intéresser à ce qui se passe dans les églises qui se trouvent dans d'autres villes ou dans d'autres pays. Timothée, c'était un exemple de dévouement à Christ. Il s'était consacré au service de l'évangile, nous dit le verset 22, comme Jésus qui était venu en prenant une condition de serviteur. Timothée, c'était le genre de personne que tout responsable aimerait avoir à sa disposition, que ce soit dans une association, une église, une entreprise. Personne vraiment dévouée. Et c'est vrai que dans les églises en particulier, c'est important d'avoir des personnes sur lesquelles les responsables peuvent s'appuyer, qui peuvent porter avec eux le souci de la communauté. Mais l'amour dans l'humilité, c'est un combat. Verset 21, « Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts, et non ceux de Jésus-Christ. » Un commentateur disait que la manière de vivre qui était dénoncée ici, c'était celle de chrétiens qui se préoccupaient tellement de la vie terrestre qu'il n'avait pas de temps pour les intérêts de Jésus-Christ. Et il poursuivait en disant « N'y a-t-il pas dans ces propos un message pour nous qui vivons dans notre petit monde où tout gravite autour de nos maisons, de nos réfrigérateurs, de nos téléviseurs, de nos ordinateurs et autres objets que nous possédons et qui finissent par nous posséder ?» Que sont nos intérêts? Nos études, peut-être notre réussite, le développement de notre confort, le souci d'une plus grande sécurité matérielle pour l'avenir, une attention scrupuleuse à tout ce qui touche notre santé, etc. c'est tout des préoccupations parfaitement légitimes et très bonnes. Et c'est vrai qu'on pourrait continuer la liste longtemps avec des besoins que nous nous créons et qui parfois du coup se mettent à dévorer notre temps et notre énergie au détriment parfois des, ou souvent des intérêts de Jésus-Christ. Autour de nous, par exemple, qui pouvons-nous aimer? Qui a besoin de notre aide? L'amour dans l'humilité, comme Jésus et pour Jésus. Ce qui conduit à servir jusqu'au bout, versets 25 à 30. Servir Dieu avec confiance et fidélité. Alors bon, Paul, il aurait pu se dire, bon, maintenant je suis en prison, Dieu est souverain, donc c'est lui qui l'a voulu ainsi, c'est pour que je me repose, après tout ce que j'ai fait pour lui. S'il voulait que je continue à parler de l'évangile, il n'aurait pas permis que je me retrouve en prison, donc c'est qu'il veut que j'arrête tout. Non. Jésus avait dit que ceux qui annonceraient l'évangile risqueraient de se retrouver dans des situations comme celle dans laquelle Paul était là. Et dans des situations que Jésus avait lui-même vécues. Mais comme Jésus, également, Paul ne baisse pas les bras. Et son ami Épaphrodite était un bon exemple de cela aussi. Épaphrodite, c'est un homme que j'aime beaucoup. On en parle presque que là dans la Bible. Et Paul le décrit par trois titres dans le verset 25. Frère, collaborateur et compagnon de combat. Alors le premier titre évoque les liens d'affection, frère, liens d'affection qui unissaient ces deux hommes. Collaborateur, le travail difficile qu'ils menaient ensemble. Et compagnon de combat, les luttes qu'ils avaient à affronter ensemble pour l'évangile. Épaphrodite, il avait été envoyé par l'église de Philippe pour apporter à Paul du financement et pour l'aider. Et cela, ça lui a coûté sa santé. C'est quelqu'un qui a souffert, beaucoup souffert. On ne sait pas trop quelle maladie il avait, ni pourquoi il avait été malade. Certains pensent que c'était peut-être la fatigue de son voyage pour rejoindre Paul. D'autres que c'est l'épuisement dans son service quotidien. Mais quelle qu'en soit la cause, il s'est donné complètement, jusqu'à être à bout de force. Avait-il manqué de sagesse dans l'utilisation de ses forces? On n'en sait rien. Est-ce qu'il aurait dû informer ses amis de Philippe qu'il était malade, au lieu de faire preuve d'une délicatesse peut-être un peu extrême pour ne pas les inquiéter? On n'a pas à juger. Il a joué sa vie au service du Christ. Il a pris des risques pour l'évangile. Et dans ce service jusqu'au bout, on voit que Dieu l'a soutenu. Verset 27, Dieu a eu pitié de lui. Il a répondu à ses prières en le guérissant. Dieu l'a soutenu, et verset 29, pour son service, Épaphrodite devrait être honoré par l'Église lorsqu'il reviendra dans sa communauté d'origine. Un ami qui revient, et il a fait du bon travail, quelle joie! Un service qui honore. C'est vrai que ça, dans les épîtres de Paul, c'est à peu près le seul endroit où il fait une recommandation de ce genre, d'honorer les personnes qui reviennent après leur service pour l'Évangile. Il voulait s'assurer qu'il n'y aurait pas de malentendu au sujet du retour d'Épaphrodite. Les chrétiens de Philippe ne devraient pas s'imaginer que leur envoyé avait raté sa mission. Même s'il avait l'air un peu fatigué, un peu déprimé, un peu tourmenté, verset 26. Et pour nous, cette exhortation de l'apôtre peut nous faire nous poser une question intéressante. Quelles sont les personnes que nous honorons? Quelles sont les personnes que nous admirons? Pour qui avons-nous de l'estime? Est-ce que ce sont ceux qui réussissent de manière éclatante dans tout ce qu'ils entreprennent? Ou avons-nous d'autres critères, comme Paul semble le suggérer ici? Comme le disait Philippe Henry, un chrétien anglais du XVIIe siècle, « Il n'est pas si bête celui qui se sépare de ce qu'il ne peut garder quand il est sûr d'être récompensé avec ce qu'il ne peut perdre. » Il n'est pas si bête celui qui se sépare de ce qu'il ne peut garder quand il est sûr d'être récompensé avec ce qu'il ne peut perdre. Servir jusqu'au bout. Pour conclure, vivre le salut de Jésus le Messie, c'est briller dans la nuit, aimer dans l'humilité, servir jusqu'au bout. Est-ce que quand nos collègues ou notre famille ou nos amis nous voient, ils voient Jésus? Même s'ils ne le connaissent pas, Est-ce que si un jour il lisait un évangile et qu'il se mettait à comprendre comment Jésus réagissait, comment il vivait, comment il pardonnait, comment il aimait, comment il enseignait, il pourrait faire le lien avec nos vies? Nous en sommes sûrement très loin, ou pas, Dieu seul le sait. Mais avec l'aide du Saint-Esprit et avec la grâce de Jésus, luttons fermement contre la passivité qui consiste à ne rien faire et en attendant que Dieu agisse en nous. Mettons en œuvre notre salut. Mettons tout. Mettons-nous en mouvement. Mais faisons-le en reconnaissant avec bonheur que notre vouloir et notre faire sont les preuves que Dieu agit en nous. La grâce de Dieu, c'est une grâce qui nous coûte et une grâce qui nous libère, les deux en même temps. Et si nous sommes chrétiens, nous avons un exemple, Jésus. Après, chacun essaie de l'imiter à sa manière. Et c'est vrai que, bon, inévitablement, on est tenté d'imiter les autres personnes qui sont autour de nous. Et c'est tout à fait normal et sain de vouloir imiter d'autres croyants dans notre chemin avec le Seigneur, dans notre poursuite de la sanctification. Après, il faut faire attention dans le choix des personnes que nous voulons imiter, pour ne pas être entraîné à prendre modèle sur des personnes qui ne seront pas forcément de très bons exemples. Choisissons d'imiter celles et ceux qui calquent leur vie sur celle du Christ, des personnes pour qui la principale richesse est leur Messie, qui cherchent à vivre l'Évangile d'abord et avant tout. Et parfois, s'il n'y a pas de modèle autour de nous, ou peu, il nous faut oser devenir un modèle pour les autres. Que Dieu nous accorde à nous aussi le sens du sacrifice d'un Paul, sa sensibilité envers les autres et sa confiance en Dieu, la générosité des chrétiens de Philippe, le dévouement et l'engagement d'un Timothée, l'abnégation et la discrétion d'un Épaphrodite. Chacun à leur manière, ils ont essayé de vivre l'humilité de Jésus. Et si vous n'êtes pas encore disciple de Jésus, sachez que l'Évangile, ce n'est pas une théorie que l'on applique, c'est une histoire que l'on croit. Et le fait d'y croire nous transforme. Et cette histoire, ce n'est pas exactement la nôtre, c'est celle de Jésus, le Messie. Sa naissance, sa vie, sa mort, sa résurrection, son ascension, son règne. L'Évangile, c'est cette bonne nouvelle qui réjouit notre cœur et qui change notre cœur par la foi. Que Dieu, notre Père, nous accorde la grâce de savoir vivre comme ses enfants, d'avoir de bons modèles et d'être de bons modèles pour les autres, et de vivre comme Jésus avec l'aide du Saint-Esprit. Vivre le salut de Jésus le Messie, briller dans la nuit, aimer dans l'humilité, servir jusqu'au bout.